Monsieur le Premier ministre, bonjour.
Bonjour, monsieur Christophe Boisbouvier.
Votre pays a besoin de liquidités, mais le FMI refuse toujours de débloquer la deuxième tranche de financement qui avait été prévue il y a 2 ans, parce que vous êtes trop lourdement endetté auprès de la Chine et des traders pétroliers. Qu'est-ce que peut faire la France pour vous aider au moment où vous terminez ce séjour à Paris?
Il faut déjà dire qu'il ne s'agit pas d'un refus catégorique du Fonds monétaire international. Ben, cela a été ralenti par un certain nombre de préalables qui sont en train d'être remplis en ce moment. Et ces préalables ont fait l'objet d'importantes réformes engagées dans notre pays, des efforts qui ont été reconnus par la mission du FMI qui a fait une consultation virtuelle dans le pays sur un certain nombre de mesures qui avaient été exigées et qui sont en train d'être exécutées. Et nous sommes justement venus en France pour obtenir davantage l'appui et l'aide de la France dans le plaidoyer que nous sommes en train de mener.
Et justement, qu'est-ce que la France peut faire?
La France s'engage à accompagner le plaidoyer du Congo et à faire percevoir, parce que comme vous le savez, la France est administrateur du Fonds monétaire international. Sa voix est quand même assez déterminante dans la poursuite des négociations, mais aussi lorsque le dossier sera présenté devant la table du conseil d'administration. La France est engagée justement à relayer le message d'espoir de la République du Congo.
Les relations n'ont pas été très bonnes ces dernières années entre Brazzaville et Paris. Est-ce que ça s'améliore?
Les relations que vous décrivez n'avoir pas été bonnes entre la France et le Congo depuis un moment nous renvoient à ce qu'avaient connu l'Occident et les États-Unis dans les années 40. En fait, c'est à cela qu'il faut résumer la situation. Vous savez, dans les années 40, l'Occident, qui était habitué à l'unicité de mandat aux États-Unis, a été un peu surpris de voir Roosevelt multiplier les mandats, un deuxième, un troisième, un quatrième. Et la conception démocratique de la France était incompatible à cette approche. Et c'est bien après, quand on a vu les crises auxquelles devait faire face Roosevelt, qu'on a fini par se rendre compte que c'était nécessaire, heureusement, qu'on l'avait encore à ce moment. C'est exactement ce qui s'est passé avec le Congo. La France a peut-être très mal compris la volonté populaire d'obtenir la prorogation du mandat du président Denis Sassou Nguesso, ne l'avait pas compris. La conception démocratique de l'Occident trouvait cela incompatible avec ce qu'ils appelaient les valeurs démocratiques. Mais je pense que quand on tient compte du contexte international, marqué par 5 crises au total, la crise sanitaire, la crise économique financière, la crise morale, la crise politique, la crise sécuritaire, on voit comment ça se passe au niveau de la sous-région d'Afrique centrale. Je pense que la France a fini par se rendre compte qu'heureusement qu'on a encore cet élément stabilisateur de la sous-région qui est Denis Sassou Nguesso en ces temps-ci.
Alors, sur le fond de votre dette, il y a un vrai problème. C'est, comme le dit Brice Makosso, de publier ce que vous payez. Le Congo dépense la moitié de ses revenus pour payer ses dettes. C'est une charge terrible. Et c'est pour ça que le FMI ne débloque pas sa deuxième tranche. Qu'est-ce que vous allez faire?
Savez-vous que plusieurs pays de l'Europe, par exemple, sont super endettés? La France, par exemple, est à plus de 123% de dette du PIB. Nous sommes super endettés. Aujourd'hui, nous pouvons vous dire, nous sommes à 91%. Donc, des efforts sont en train d'être déployés pour que nous puissions atteindre la norme CEMAC, qui est de 70%, sinon moins.
Oui, mais vous êtes très endetté, notamment auprès de la Chine et auprès de traders pétroliers comme Glencore et Trafigura. Et finalement, vous êtes dépendant de leur bonne volonté. S'ils ne veulent pas rééchelonner votre dette, qu'est-ce que vous allez faire?
Cette dette dont vous parlez vis-à-vis de la Chine est en pleine restructuration. Nous avons bénéficié d'une première restructuration et les deux chefs d'État se sont accordés pour aller vers une seconde restructuration. Avec les traders, les négociations se poursuivent et la France a promis justement nous accompagner dans la suite de ces négociations. On en a déjà obtenu quelques résultats avec 2 d'entre eux. Il reste 1, les négociations se poursuivent.
La France vous accompagne dans la négociation avec ces 3 traders, c'est ça?
En tenant compte du fait qu'il s'agit des investisseurs privés, il s'agit des partenaires privés, la difficulté y est. Mais au moins, nous avons un langage commun que nous n'avions pas il y a quelque temps. Hier, on nous laissait aller négocier tout seul, sachant que c'était difficile. Aujourd'hui, on peut dire oui, nous allons intensifier le plaidoyer avec vous. Mais au-delà,
nous Trafigura,
avons un plan de relance avec Trafigura, avec Orion, avec Glencore.
D'accord.
Mais au-delà, nous avons un plan de relance qui peut permettre le décollage de notre économie.
Alors, le FMI vous demande d'alléger votre dette, mais il vous demande aussi de lutter plus efficacement contre la corruption. Concrètement, qu'est-ce que vous faites sur le terrain de la bonne gouvernance?
D'importantes réformes ont été entreprises dans la mobilisation et la gestion rationnelle des ressources financières, des ressources fiscales, des ressources douanières. D'importantes réformes ont été entreprises dans l'amélioration du climat des affaires, dans la lutte contre la corruption. Nous avions déjà une loi et des organes organes anticorruption. Aujourd'hui, nous avons réformé tous ces organes anticorruption au point d'avoir la haute autorité de lutte contre la corruption, dont les animateurs ont été nommés et recrutés sur la base d'un appel d'offres, un appel à candidature, sur la base des critères bien définis d'appel à candidature qui ont fait que nous ayons sélectionné les meilleurs pour animer ces organes. La loi anticorruption qui existait déjà est en pleine réforme en intégrant les observations du Fonds monétaire international.
Alors parmi les personnes pointées par l'ONG Global Witness pour d'éventuels détournements d'argent public, il y a Denis-Christelle Sassou-Nguesso, le fils du chef de l'État. Or, cet ancien haut cadre pétrolier de la SNPC, la Société Nationale des Pétroles Congolais, vient de devenir ministre. Il est même avec vous en ce moment en délégation à Paris. Est-ce que cette nomination ne risque pas de compliquer vos relations avec les bailleurs de fonds et avec vos partenaires?
Les grands esprits discutent des idées, les esprits moyens des événements et les petits esprits des personnes. Cela dit, Monsieur Boisbouvier, en dehors de la surenchère médiatique, nous n'avons connaissance d'aucune procédure judiciaire engagée contre notre patriote Denis-Christelle Sassou-Nguesso. Aucune. Et lorsque nous serons saisis des procédures de ce genre, ben nous saurons comment effectivement, en vertu des dispositions de notre constitution, notamment l'article 10 de la loi 25-2018 qui assure la protection et l'assistance des ressortissants congolais au nom de la protection diplomatique des ressortissants congolais à l'étranger, nous verrons comment l'État assistera notre compatriote au cas où des procédures auraient été engagées contre lui. Mais pour le moment, nous n'avons aucune procédure engagée contre lui. Et sans doute, les gens savent bien que tout ce qui se fait n'est que de la surenchère politicienne.
Si les relations ne sont pas toujours bonnes depuis quelques années entre le Congo et la France, c'est notamment depuis l'arrestation il y a 5 ans de deux figures de l'opposition, Jean-Marie Michel Mokoko et André Okombi-Salissa. Depuis 2 ans, le ministre français Jean-Yves Le Drian vous demande de faire un geste à leur égard. Qu'est-ce que vous avez répondu sur ce point cette semaine aux autorités françaises?
Les autorités françaises ne nous ont pas posé ce problème, sans doute parce que savent-elles que c'est un problème qui n'a plus aucun intérêt. Parce que, comme en France, il y a des hommes politiques qui font l'objet de poursuites. Il y a des candidats à la présidentielle qui font l'objet de poursuites, qui sont jugés, qui sont condamnés. Et ça n'a jamais été pris pour des procès politiques. Bien entendu, nos compatriotes ont été poursuivis, condamnés. Bien entendu, le rêve de tout le monde est de voir ses patriotes en liberté. Parce que la liberté, c'est la règle. La détention, c'est l'exception. Bien entendu, on arrivera certainement un jour à ce que nos compatriotes recouvrent leur liberté. Mais pensez-vous que c'est à coup de chant de sirène, à coup d'agitation internationale? Non. Le Congo a une expérience des compatriotes qui ont été jugés, condamnés et qui ont bénéficié des dispositions bienveillantes de l'amnistie du peuple. Nous pensons que cela aussi, à défaut de les laisser purger leur peine jusqu'au bout, bénéficieront. Le moment venu, lorsque le peuple, au nom duquel est rendue la décision de justice, lorsque le peuple trouvera que le temps est arrivé pour faire bénéficier des dispositions bienveillantes de l'amnistie à ses compatriotes, le peuple agira en conséquence par le biais de ses représentants qui sont élus au suffrage universel.
Mokoko et Okombi-Salissa sont en prison depuis 5 ans. Comme ils ont été condamnés à 20 ans de prison, ils risquent de rester en prison jusqu'en 2036. Quand on vous écoute, ils sortiront avant, c'est ça?
Mais le peuple déterminera le moment auquel il pourra leur faire bénéficier des dispositions bienveillantes d'amnistie. C'est possible, il n'y a aucun mal à cela. Nous avons eu paix à son âme le premier ministre Bernard Colella, qui avait été jugé par coutumasse, condamné, mais qui est bien rentré dans son pays un moment à bénéficier de l'amnistie.
Amnistie sans condition, ce serait possible? Sans poser de conditions aux deux prisonniers actuels?
Mais lorsque le peuple accorde l'amnistie, c'est lui qui détermine les modalités, le temps, le moyen. Il n'est pas question d'exiger des conditions. Il faut simplement...
Non, je vous pose la question parce que vous disiez il y a quelques jours sur TV5 Monde qu'avant une éventuelle amnistie, il faudrait que M. Mokoko et Okombi-Salissa fassent un acte de contrition. Or, vous le savez, tous deux estiment qu'ils n'ont rien à se reprocher et qu'ils ne sont en prison que pour des raisons politiques.
Vous savez ce qu'un acte de contrition? C'est le repentir. C'est la reconnaissance morale, intérieure, du mal qu'on a fait. Et la volonté qu'on a de regretter ne serait-ce que ce mal. Or, vous dites, certainement à raison, que M. Mokoko, M. Okombi ne reconnaissent n'avoir fait aucun mal. Faut-il encore qu'ils reconnaissent demain que le peuple leur accorde le droit d'amnistie et qu'ils puissent y accéder? Parce qu'ils diront, nous n'avons pas besoin d'être amnistiés puisque nous n'avons fait aucun mal. À quoi va servir l'amnistie? Il faut craindre qu'on arrive aussi devant cette situation.
Donc une solution peut être envisagée avec leurs avocats.
Sérieux de regarder. Nous ne voyons pas qu'est-ce que nous avons encore à dire. Je vous ai dit que les grands esprits discutent des idées. Voyez-vous, M. Boisbouvier, un premier ministre, chef du gouvernement, vous pensez qu'un premier ministre comme celui-là devrait être réduit à réfléchir au quotidien sur le sort des compatriotes qui pourraient bénéficier de leur liberté un jour à l'autre, plutôt que de s'engager à l'amélioration des conditions de vie des populations. C'est à ça que sert un Premier ministre. Il s'occupe de l'intendance, des conditions économiques et sociales du pays, de l'amélioration des conditions de vie de ses compatriotes, en mettant en œuvre le projet de société du président de la République, en cherchant à rétablir les équilibres macroéconomiques, en investissant dans l'agriculture, en diversifiant dans l'économie, en réduisant les importations des produits alimentaires, en faisant en sorte que nous puissions davantage exporter les produits manufacturés pour garantir l'employabilité de nos jeunes, avoir plus d'emplois, faire en sorte que nous investissions dans l'éducation, dans la santé. C'est ce à quoi je m'occupe en ce moment. Cela ne veut pas dire que je n'ai aucune compassion pour mes compatriotes qui sont privés de liberté. Nous travaillerons pour que tous les Congolais, où qu'ils soient, puissent bénéficier de leur liberté, jouir de leur liberté, d'aller et venir puisqu'ils l'ont jusqu'à aujourd'hui. Mais simplement que ceux qui auront été condamnés pour des raisons, des crimes de droit commun, des délits de droit commun, s'engagent à ne plus revenir sur les lieux de leurs crimes, que ce soit sur la corruption, que ce soit sur l'atteinte à des personnes physiques, morales, l'atteinte à l'intégrité physique et morale des personnes, que ce soit sur des infractions de quelque nature que ce soit, ou encore des violations simplement de valeurs morales, qu'à partir d'aujourd'hui, nous tournons le dos au passé et que nous nous engageons à construire notre pays. C'est ce à quoi je m'emploie.
Vous le disiez il y a quelques minutes, l'une des causes du malentendu de ces dernières années entre Brazzaville et Paris, c'est le fait que le président Sassou Nguesso cumule à présent 37 ans de pouvoir. Souvent, pour justifier une telle longévité, le président invoque l'exemple de la chancelière allemande, Angela Merkel. Mais après 16 ans de pouvoir, il se trouve qu'elle s'en va. Est-ce qu'il n'est pas temps aussi pour le président Sassou Nguesso de penser lui aussi à sa retraite et de dire, eh bien, ce quatrième mandat sera mon dernier mandat ?
La volonté populaire n'est pas la volonté des individus que nous sommes. Si le peuple voulait que Sassou Nguesso puisse partir, le peuple n'aurait pas voté pour lui. Deuxièmement, vous avez parlé d'Angela Merkel, mais on avait dépassé cet exemple. Je vous ai pris l'exemple du président Roosevelt. Que serions-nous devenus face à une crise sanitaire qui a sévi un peu partout si on n'avait pas l'expérience de Denis Sassou Nguesso pour la gestion de cette crise, ce qui fait que le Congo n'est pas aussi frappé que les autres pays? Que serions-nous devenus alors que ça bouge en Centrafrique, ça bouge au Tchad, ça bouge en RDC, ça bouge un peu partout, si on n'avait pas l'expérience de Denis Sassou Nguesso, qui par sa sagesse, par sa volonté de dialogue, réussit à contenir des crises?
En 2026, le président aura cumulé 42 ans de pouvoir. Est-ce qu'il ne sera pas temps de passer la main?
Nous savons simplement qu'il y a autour de nous des présidents qui auront passé autant de temps, sinon presque le même temps. Mais ils ne font pas l'objet d'autant de surenchères démagogiques.
Au Cameroun, beaucoup de gens dissertent sur la longévité exceptionnelle de Paul Biya et disent qu'il serait temps qu'il passe la main, lui aussi.
C'est justement pour cette raison que notre peuple se dit, nous l'avons pour faire face aux crises que nous connaissons actuellement. C'est le plus important pour notre peuple. Ils ne veulent pas d'un saut dans l'inconnu. Ils ont besoin de continuer à profiter, à capitaliser l'expérience, la sagesse de ce grand homme d'État. Sur une génération, on n'en a pas toujours nombreux, des hommes d'exception.
Est-ce qu'en 2026, Denis Christelle Sassou Nguesso pourrait être un bon candidat?
Comme tous les autres Congolais, Denis Christelle Sassou Nguesso n'est pas seul. La constitution de notre pays donne le droit à tout citoyen congolais d'accéder à la présidence de la République.
Au risque que l'on parle de succession dynastique?
Je ne sais pas s'il y a une succession dynastique par le biais des élections. Et encore, faudrait bien que vous sachiez que la question n'est même pas encore à l'ordre du jour. Le mandat de Denis Sassou Nguesso vient de commencer. Je suis à 3 mois de mon exercice en tant que Premier ministre chef du gouvernement. Comment pouvez-vous nous parler déjà de la succession de 2026?
La COP26, c'est dans 2 mois, c'est à Glasgow. Or, le bassin du Congo est l'un des deux poumons de la planète. Qu'est-ce que vous attendez de la communauté internationale lors de ce sommet?
Ça fait l'objet de nos échanges importants avec Madame la ministre de la Transition écologique et nous avons porté le
Barbara
même discours.
Madame Barbara
Pompili, nous avons porté le même discours auprès de toutes les autorités françaises que nous avons connues. Il s'agit là de l'application simplement de l'article 6 de l'accord de Paris. Vous savez que l'accord de Paris aura été un instrument important, le seul grand instrument important qui aura mis en valeur le carbone, la gestion du carbone séquestré et qui aura amené les pays effectivement à se rendre compte de la place qu'occupent les pays non émetteurs ou les pays régulateurs, les pays non pollueurs. Voilà. Et sur cette base, on se rend compte par exemple que les efforts de l'État, des États régulateurs, des États non pollueurs ne sont pas pris proportionnellement en compte parce que nous sommes obligés de négocier le rachat de la tonne carbone de façon bilatérale à des clauses relativement léonines. il faut qu'on essaie, au travers de l'application de l'article 6 qui met en œuvre le mécanisme de recouvrement, qu'on parvienne effectivement à mieux placer la tonne carbone de chez nous, pour qu'on part de 5-6 dollars qu'on nous donne au plan bilatéral à au moins 60-70 dollars, tel que cela profite aux États, aux autres pays, et pourtant reconnus parfois pays pollueurs. Donc, nous avons échangé avec les autorités françaises pour que nous puissions parler d'une seule voix à la COP26, ne serait-ce que sur cette question et sur celle, bien entendu, du financement du Fonds bleu pour la Commission climat du bassin du Congo.
Et là, vous parlez au nom de tous les
nous
pays.
Nous parlons au nom de tous les pays africains.
D'Afrique centrale.
Oui, d'Afrique centrale pour le bassin du Congo, mais il y a quand même pratiquement 16 États avec un certain nombre de projets bien identifiés, des projets de plus de 300 projets évalués à près de 500 milliards de dollars pour ce qui est du Fonds bleu du bassin du Congo, voyez-vous. Mais au-delà, s'agissant de l'application de l'article 6 de l'accord de Paris, mais il s'agit de tous les pays au-delà des 16 pays du bassin du Congo, au-delà des 54 pays africains. Il s'agit d'un dossier porté dans l'intérêt de la planète et qui profiterait à l'ensemble des pays de l'humanité.
Anatole Collinet-Makosso, merci.